Roddy, membre de l'équipe d'À Tour de Bulle, vient de nous rejoindre à cette table. Bonjour Roddy.
Bonjour.
Alors, on va peut-être commencer par demander à nos invités de se présenter.
Oui, parce que là, je crois qu'on a tous les métiers dans le comics. Alors, on va commencer par Monsieur Mornay. Allez.
Bonjour tout le monde. Oui, je suis Thierry Mornay. Je suis dans la vraie vie éditeur de bandes dessinées, notamment du catalogue comics aux éditions Delcourt. Sur mon temps libre, j'auto-édite et j'écris les scénarios d'un personnage qui est un super-héros français qui s'appelle le Garde Républicain. Et je suis présent aujourd'hui sur ce superbe festival pour cette raison-là. Et j'ai également commis un ouvrage dédié aux comics, publié fin 2012, début 2013, et qui était un guide de lecture du comics. Voilà.
Merci.
Hello, I'm Tony Fezula. I work, shall I say that I work for Dark Horse, but I've been published in France by Delcourt, by my friend Thierry Mornay here, here present. And the series called The Whale.
En fait, Tony Fejula est également présent ici, qui est un dessinateur qui vit à Barcelone et qui travaille notamment pour les éditions Dark Horse aux États-Unis. Sa dernière réalisation en date s'appelle The Veil et qui est écrite par Greg Rucka et qui a été publiée en France aux éditions Delcourt.
Moi, Mickaël Jérôme, je suis rédacteur en chef de la partie comics sur planètebd.com. Je suis également animateur de l'émission Comic Strip sur Radio Béton. Puis plein d'autres choses, peut-être oui. Un projet Kirby en cours pour l'année prochaine, mais bon, on en parlera peut-être à l'occasion.
Oui, le projet Kirby en mi.
Ah ben voilà, par exemple. Voilà.
Et Laurent Lefebvre, auteur de bande dessinée, rennais, et je suis l'auteur de la série Foxboy, qui est un super-héros français, voire même breton.
Ouais, plus, ouais, très breton.
Ah, il aime bien l'Auvergne.
Ouais. Il aime bien l'Auvergne.
Bon, alors moi, pour commencer, j'ai envie de vous demander, messieurs, comme on est tous fans de comics, comment vous êtes tombés dedans dans le comics ? Par quoi vous avez commencé ?
Oh, mon premier contact avec les comics, c'est un jeune garçon quand j'étais à l'école qui a été mon dealer en fait. Et il m'a mis entre les mains un numéro de Strange et un album des Fantastiques, des Quatre Fantastiques à l'époque, publié par les mythiques éditions Lug. Mmh. Et c'est ainsi que je suis tombé dedans en fait. Il ne savait pas ce qu'il faisait, cet affreux bonhomme, et en fait, je n'en suis jamais ressorti depuis lors. Ouais.
My first experience at comics was reading incredibly, but was reading Scott McCloud's book Understanding Comics: The Invisible Art, and that book actually made me draw comics. Voilà.
Bon, en ce qui concerne Tony, le premier contact, la première vraiment immersion et ce qui a été son catalyseur en termes de comics, c'est la lecture du livre de Scott McCloud qui s'appelle L'Art Invisible. Et qui a vraiment décidé à dessiner de la bande dessinée, à se mettre en contact avec les comics.
Alors moi, c'est plutôt j'ai plutôt un souvenir visuel en fait de d'une couve que j'avais vue, en tout cas entre guillemets, je devais avoir 4 ans à peu près chez mes grands-parents. Voilà pour résumer. Comme ça, je leur fais un petit coucou de là-haut. mais en tout cas, c'est une couve entre guillemets de Jack Kirby sur les Avengers. En fait, de mémoire, quand j'étais tout petit, j'avais l'impression que Captain America volait sur son bouclier. J'avais pas trop compris. Et c'est mon premier souvenir. Voilà, si on peut le résumer. Bon, après, on va pas traîner sur les lectures. C'est venu après, évidemment.
Moi, étant né à la fin des années 70, c'est les souvenirs du dessin animé Spider-Man, celui de 67 qu'on appelait l'araignée à l'époque. Vous savez, avec la fameuse qui est tombée dans la purée. Et puis, comme Thierry, c'est la lecture du magazine Strange. Et on reconnaît les vrais fans, c'est qu'ils ne disent pas Strange, ils disent bien Strange. Ah oui, voilà, Strange. Cette prononciation très française qui est notre manière à nous, un peu comme le gendarme à New York, de percevoir l'Amérique.
Ouais. Moi, je crois qu'on remerciera jamais assez les éditions Lug, là, parce que moi aussi, j'ai commencé avec Strange, Titan, puis après il y a eu Micros et tout ça. Donc vraiment, moi mon premier souvenir, c'est une couverture de Dave Cockrum avec Phoenix qui sort des eaux. La résurrection
qui était reprise par Frisano d'ailleurs, ouais, qui était une couverture finalement de Jean Frisano d'après un dessin de Cockrum.
C'est vraiment ce qui m'a marqué.
Alors moi qui est un novice par rapport aux comics, est-ce que vous pourriez expliquer également aux auditeurs quelle est la particularité du comics par rapport à la bande dessinée franco-belge ?
C'est un format, si on veut être assez bête en caricaturant l'ensemble. C'est l'histoire d'un format, c'est l'histoire d'une narration, c'est l'histoire d'un découpage, c'est l'histoire aussi d'un rythme de publication qui est beaucoup plus élevé aux États-Unis.
C'est mensuel, 24 pages. 24 planches.
Ouais, ça souvent, dépend, on a diminué à 20 en ce moment, mais ouais. C'est vrai qu'en tout cas, il y a plein de différences qui sont notables. L'accent est mis également sur un nombre de cases moins importantes sur chacune des pages par rapport à la BD franco-belge. L'intérêt, c'est aussi d'avoir des genres qui sont, à l'instar de la BD, assez différents. Le public est peut-être un peu plus âgé. C'est vrai que quand on voit la BD franco-belge, on a surtout les titres grand public sont plutôt des séries très jeunesse. Les Spirou, etc. On était plutôt jeunes, on va dire une dizaine, douzaine d'années maximum. Les comics, on est plutôt sur, même si on parle du mainstream en l'occurrence, sur plutôt ado, post-ado. Puis ensuite, évidemment, vers un public plus adulte. Voilà, je pense que...
Oui, je reviens à la même logique du format et de la narration, de l'hyperdynamisme, du travail qui peut être fait très différemment sur le comics américain par rapport à la bande dessinée franco-belge, surtout le travail des onomatopées, sur l'exagération visuelle, sur l'exagération du mouvement également. Tout ça, ce sont des éléments qui sont propres au code du comics et qu'on ne retrouve pas forcément, ou du moins qu'on ne retrouvait pas il y a encore quelques années sur la bande dessinée franco-belge, qui était un peu plus sage visuellement, on va dire.
Puis ce côté sérial où il y a forcément une suite qu'on attend... C'est vraiment, vraiment typiquement typique du comics.
C'est feuilletonesque.
C'est voilà. Le rythme d'écriture, effectivement. Voilà, voilà. Oui, les scénaristes américains ont bien su emprunter ce qui faisait le propre de la littérature feuilletonesque européenne, qu'elle soit anglaise ou française, d'ailleurs, à la fin du 19e ou début du 20e. Et ils se sont appropriés très justement avec, dans le comics.
Avec régulièrement des vignettes où on a une interrogation, puis on a la réponse, je dirais, 2 ans plus tard, quand c'est un autre scénariste qui s'intéresse à la problématique.
Ou pas.
Ou pas.
On a des fois jamais eu de réponse.
Jamais eu de réponse, oui, c'est vrai. maintenant, il y a eu les éditions Lug, puis maintenant, on constate qu'il y a... pléthore de rééditions, enfin même de traductions actuellement en France de comics, notamment chez Delcourt. Et est-ce que vous pensez que c'est dû à bah, toutes ces adaptations ciné qui publicitent,
qui
ouvrent le comics à un nouveau public? Et du coup,
qu'est-ce qui est lié? C'est quoi? C'est les sorties ciné simplement?
Non, les sorties ciné. Du coup, ça a ouvert le comics à un public qui s'y intéressait pas forcément.
Alors, évidemment, faut pas se mentir. Je pense qu'il y a des projecteurs qui ont été mis sur les comics qui n'y étaient pas forcément avant, comme ça a été peut-être sur le manga dans les années 90, une époque où le manga avait mauvaise presse, etc. Là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a certaines adaptations, effectivement, qui bousculent les idées préconçues. Il y en a une que Thierry forcément connaît bien, qui est Walking Dead, qui je pense à l'origine est peut-être une série qui est pas forcément vendeuse auprès du grand public, en leur disant vous allez aimer une série avec des zombies. Déjà, les zombies, c'est pas forcément la chose la plus populaire à l'origine, et pourtant c'est quelque chose qui je pense est un véritable raz-de-marée aujourd'hui, que ce soit en termes de séries télé, mais surtout aussi de vente en comics pur, et ça permet des petits changements au niveau de l'industrie, y compris aux États-Unis.
Ouais, on a une vraie conjonction sur les 10-15 dernières années de facteurs qui ont fait qu'on voit aujourd'hui l'émergence de ce genre qui était auparavant considéré, vraiment déconsidéré, on va dire. Et ça passe effectivement par l'exposition multimédia. Alors c'est vrai pour les adaptations cinématographiques, c'est vrai pour les adaptations séries télé également aujourd'hui, puisque la télé permet visuellement, techniquement, d'offrir des choses dont on pouvait seulement rêver au cinéma il y a une vingtaine ou il y a 25 ans. Il y a les jeux vidéo qui ont aussi amené tout un langage et puis la déclinaison de certaines licences. Il y a aussi, je pense, l'évolution des goûts du public qui a envie d'un autre type de narration. Ça a été vrai, ça le reste pour partie avec le manga d'une part, mais c'est vrai particulièrement pour le comics aujourd'hui. Et puis le comics, il a quand même cette particularité, enfin les comics, comme on doit dire même, c'est de toucher absolument à tous les genres. Hein. C'est-à-dire que le comics, d'une part, ne se limite pas aux simples super-héros. On aura tendance parfois à le penser avec l'émergence de beaucoup de films qui sont des déclinaisons de comics au départ. Mais on touche au fantastique, au polar, à la science-fiction,
à l'horreur,
absolument tous les genres. L'un des seuls genres qui est peut-être... absent, je dirais, aux États-Unis du monde des comics, c'est le western, qui lui est resté quelque chose un peu plus cantonné à la bande dessinée franco-belge ou italienne en l'occurrence. Ouais. Mais sinon, on trouve absolument tous les genres aujourd'hui disponibles.
Ouais. Tous les genres, oui, mais justement, ça permet actuellement, je trouve qu'au niveau du grand public, ça nous permet de découvrir des comics, de montrer que plutôt les comics indépendants ou des choses, on n'est plus cantonné aux comics de super-héros, ce qui était avant le cas. justement avec les éditions Lug, Strange et tout ça, c'était vraiment
super-héros. Il y a toujours eu une scène comics en dehors des super-héros, enfin dans les
Oui, mais en France, 60. On ne la trouvait pas aussi facilement que...
Oui, non, c'était pas aussi forcément aussi implanté. C'est pas aussi populaire.
C'était pas aussi populaire.
Donc,
non. Maintenant, dès les années 70 et 80, il y avait aussi, de toute façon, des comics américains adaptés en français à travers un certain nombre de magazines. Et là, je voudrais saluer au passage un peu les précurseurs de ce genre, qui ont été des gens comme Jean-Pierre Dionnet pour les Emmanuel et Associés, avec Metal Hurlant, Ferchit Baroucha ou Jacques Collin, un des créateurs des éditions Zenda. Ce sont des gens qui ont amené effectivement des choses sur la scène éditoriale française et qui ont permis des adaptations de bandes dessinées américaines et qui n'étaient effectivement pas de la bande dessinée de super-héros. Et on a connu des gens comme Sterenko, des gens comme Eisner à travers leurs travaux éditoriaux.
Ouais, sinon, au-delà de traduire, maintenant, nous aussi les Français, on se met à faire du comics. On est un bel exemple avec Foxboy. Quel est le petit plus du comics français, enfin du French comics, on pourrait dire?
Déjà, comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles, toi?
Comment je l'appelle? Comment ça?
Oui, voilà.
Bah, j'ai pas envie de le nommer, je fais mon truc. Enfin, c'est un peu.
Oh, la réponse.
Non, dire un politicien.
Ah, mais c'est une réponse. C'est une réponse parce que ça, c'est pas mon problème. C'est le problème des gens qui ont besoin de mettre un nom sur les choses.
Et moi, des étiquettes, oui.
Il faut toujours
moi, j'en ai pas besoin. Donc, c'est ma réponse quelque part. Vous savez, c'est comme Bachung, quand il a commencé à faire du rock, on a dit, mais c'est quoi ce truc? Il fait du rock français parce qu'à l'époque, il y avait des yéyés. Et lui, il s'en fichait, il n'avait pas besoin de singer les Beatles ou les Stones ou de se trouver un nom américain genre Dick Rivers ou Johnny Hallyday. Il faisait ses textes. Sauf qu'après Bachung, y a eu plein de gens qui ont suivi, qui ont fait du rock à leur manière. Mais donc moi, je fais mon truc, en fait. Voilà, j'aime pas forcément qu'on copie... ce que j'aime, moi, chez les Américains, c'est qu'ils font leur truc. Donc je vais pas leur rendre hommage en copiant leur truc à eux. On dit qu'un lion qui imite un lion est un singe. Donc j'ai pas envie d'être un singe. J'ai envie d'être même si c'est un petit lionceau breton, un petit chaton mouillé sur les toits et par la pluie. Je fais mon truc. Mais le problème de ce que je fais, French comics, tous ces mots qui sont tellement vilains dans la bouche, moi je fais mon truc. Voilà. Si je faisais du cinéma, je pense que je serais autant influencé par Bruce Willis que Eric Rohmer, parce que j'aime les deux. Et je viens des deux. Donc je vois pas pourquoi j'aurais à mettre un costume ou un autre. C'est pas mon souci. Après, par contre, ça peut être celui de l'éditeur, de trouver un format, une collection et un public. Et là, pour ça, effectivement, avec Thierry, j'ai trouvé un interlocuteur intelligent et un pote. Il faut dire ce qu'il est. Et puis, du coup, mon renard fait son petit chemin. On verra bien où ça le mène, mais pour le moment...
Le plus loin possible, j'espère, oui. Pour toi, pour nous, et pour le plaisir des lecteurs. Ouais.
Ah oui. Le plus loin possible. Moi, franchement, j'ai vraiment accroché à Foxboy.
Bah, ça mérite parce que tout le talent de Laurent, et on va pas se tirer les pompes là, mais le plus gros du travail, c'est lui qui le fait, et la création et le talent, il vient de lui, voilà, d'accord. Nous, on est qu'une chambre d'écho en tant qu'éditeur, donc on essaye d'accompagner cela au mieux, quoi.
Ah, justement, quand il t'a présenté le projet, Thierry, qu'est-ce que tu t'es dit? Waouh, là, je tiens une perle, j'ai trouvé.
Non, je me suis dit, mon Dieu, ce mec est fou.
c'est exactement le but.
Je me suis dit, ce mec est fou, mais fou dans le bon sens. Moi, des fous géniaux, j'ai la chance d'en connaître un peu partout. Tony, qui est là, j'ai la chance de le connaître depuis une vingtaine d'années et d'avoir publié ses toutes premières planches en noir et blanc dans Spécial Zambla chez Semi qui a au début des années 2000, quoi. Voilà, on s'est perdu de vue et puis
I was 19 years old, I think, or 18.
Yeah, you were a kid.
J'avais 19 ans à l'époque, j'étais qu'un gosse.
Voilà. Et après, non, quand Laurent est venu, quand on s'est rencontré avec Laurent, il m'a proposé d'ailleurs, c'était même pas ce projet-là au départ, il m'a proposé un autre projet dont on continue à discuter, qui plus est. Et là, moi, je me suis dit, oui, il y a quelque chose absolument à faire. Et il se trouvait qu'à l'époque, chez Delcourt, on avait cette envie d'ouvrir un petit peu notre catalogue comics à des sensibilités qui n'étaient pas forcément venues d'outre-Atlantique. Et cette sensibilité et cette manière d'avoir à la fois, comme le disait si bien Laurent, digérer des comics américains, mais aussi de faire exactement ce qu'il voulait faire et son propre truc, ça collait complètement à la collection qu'on voulait développer. Alors, on a fait pas mal de tentatives, mais... Quand on tente des choses nouvelles, et ben parfois on se plante, on y va à tâtons, on essaye, on se dit tiens ça pourrait marcher et puis ça marche pas, ou tiens ça a aucune chance de marcher et puis tiens ça accroche. Et puis ce qu'il en ressort, c'est que la qualité reste là, la qualité elle parle. Et aujourd'hui, ben, Foxboy, on a réussi à faire un deuxième album. Je suis en train de militer bec et ongle pour qu'on puisse continuer. On continue à faire vivre le petit renard de Laurent. Et par ailleurs, dans un autre registre que celui de Delcourt, ben, j'ai eu la chance d'accueillir aussi le petit renard le temps d'une aventure sur le garde républicain. Et ce n'est que du bonheur de travailler avec ce type qui est d'un talent hallucinant, quoi.
Ouais. Moi j'ai envie de dire des choses gentilles aussi sur Laurent parce que de toute façon son... Mais non mais allez, il va partir, il va plus pouvoir passer le portail. J'ai eu le plaisir par exemple de relire Tom et William la semaine dernière. Et il y a une chose qui est assez fascinante avec son travail, c'est que il a vraiment une œuvre en fait qu'il construit etc depuis des années et qui reste hyper fascinante.
Tout un univers vraiment.
Plein d'anecdotes, une cohérence en fait qui rendent le tout, j'ai envie de dire, aussi passionnant qu'intéressant et qui mérite vraiment en tout cas de se poursuivre le plus longtemps possible. Je parle en termes de plaisir de lecteur pur là.
Ben, là aussi, j'invente pas grand-chose parce que moi, j'étais fan de David Lynch, de Twin Peaks, et j'avais été fasciné. Vous vous rappelez cette histoire d'une gamine, Laura Palmer, qui est tuée dans une ville. On envoie un agent du FBI complètement dingue, Dale Cooper.
Ah, oui.
Et il y a un moment, on cherche le journal de Laura Palmer. Et dans le journal, elle confie beaucoup de choses et on comprend... plein de choses, qu'elle n'était pas cette petite fille qui, elle aussi, elle aidait les petits vieux et tout ça, mais elle était beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que ça, elle avait des faces sombres. Et donc, il y a un moment où les personnages tombent sur ce journal et le lisent, sauf que la semaine d'après, ils avaient lu le journal, mais le lecteur ne l'avait pas lu. Donc, qu'est-ce qu'avait fait David Lynch ? Il avait écrit tout un livre, soi-disant sous le nom de sa fille, qui avait alors 16 ans, l'âge de l'héroïne. Et le bouquin était sorti en presse entre l'épisode où les héros trouvent ce journal et l'épisode suivant où ils ont eu le temps de le lire, c'est-à-dire une nuit. Et donc il y a cette espèce de rupture entre le mur qui sépare la dimension où il y a le monde de Twin Peaks et le réel où il y avait les spectateurs qui suivaient cette série et devaient avoir les mêmes informations que les personnages. Et ça, je trouve cette idée-là géniale. Donc moi, c'est un peu ça qui me travaille, qui me poursuit, c'est rompre le plus possible en utilisant Internet pour faire des blogs où j'essaie d'accréditer l'existence d'une maison d'édition fictive et plein de super-héros français qui n'ont jamais existé, mais dans lesquels je vais puiser mes propres personnages qui vont ensuite, une espèce de petit Marvel Universe breton de poche et qui va pouvoir être une boîte à outils dans laquelle je vais pouvoir puiser continuellement de vieux héros, super-héros, ringards, oubliés, qui vont alimenter toutes mes œuvres, tous mes bouquins, quels que soient les éditeurs. Donc j'emmène ces petits enfants avec moi et chaque bouquin doit se lire indépendamment, mais chacun doit être la pièce d'une puzzle plus grand, quoi. C'est ça qui me travaille, en fait.
Et tu le poursuis aussi en revue, enfin, tu le publies aussi, c'est dans PIF.
Alors là, Foxboy, maintenant, est dans PIF depuis le mois de juin. Et puis, donc, dans le numéro qui doit sortir bientôt. Et bon, l'idée, c'est qu'on compile ces épisodes-là chez Delcourt, s'ils veulent toujours bien de moi, évidemment. Le terrier est dur, le renard est dur à chasser du terrier. Mais oui, l'idée, c'est de trouver des moyens de continuer.
C'était une question rhétorique, hein, tu connais la réponse.
Voilà. Et passer par le kiosque, pour moi qui, comme Thierry, on a grandi en lisant, en achetant nos BD avec la monnaie du pain en même temps que les bonbons, on allait acheter des comics. Parce qu'il y a cet aspect populaire.
Je suis pas tout seul à avoir fait ça.
C'est l'époque où mes parents pensaient qu'une baguette coûtait 5 francs.
Ouais. Ouais, voilà. Ah bah oui. Ah bah on est
donc voilà,
pareil,
parce qu'on n'a pas encore parlé de ce côté, que le comics a gardé ce côté très très populaire. C'est remis en avant parce qu'aujourd'hui, il y a les feuilletons, les séries télé, les jeux vidéo, les dessins animés du samedi matin. Et le super-héros parle à chacun. Chacun son Batman. Il y a celui sur le ballon de foot du fiston de K4 ans. Il y a celui torturé au cinéma de Nolan. Et c'est aussi une des forces du comics. C'est que, comme ça appartient à des grosses boîtes à l'américaine, il y a toute cette puissance marketing stratégique, ces grands gosses que sont les Américains, de croire eux-mêmes très fort aux propres mythologies qu'ils inventent. Et voilà, il y a un côté auto-persuasif qui est très communicatif et qu'on a un peu perdu, à mon sens, ici.
Et qu'on essaie de retrouver à travers les productions, justement, ce que fait Laurent dans son univers de poche, comme il le dit, mais qui est un univers extrêmement vaste et à explorer, fabuleux.
Assez vaste,
ouais. Et c'est vrai qu'à travers des choses qu'on essaie de faire, soit éditorialement, soit personnellement avec le garde, j'ai envie de retrouver des choses qui sont celles qui me faisaient rêver, oui, effectivement, auparavant.
Et comment vous voyez l'avenir du comics en France ?
Moi, je le vois bien, au moins pour les 10 ans à venir. Ensuite, je suis à la retraite, c'est cool. Non, ça, c'est pour la boutade, mais c'est un peu vrai.
Pour la retraite ou...
Non, c'est, je pense qu'on n'a jamais eu à ce jour une telle diversité de genres, de styles, de formats d'ouvrages à disposition. Quand j'étais minot, je dois avouer que j'aurais rêvé avoir une telle pléthore de titres à disposition. C'est absolument formidable. Tony?
May I say something about this? I think that the traditional album format in order to survive comics industry in France must change. There must be some very radical change in this country to gain new readers to come to read the books. So,
d'après Tony, si la bande dessinée française veut pouvoir survivre à terme, il est persuadé qu'il faut qu'il y ait des changements radicaux qui soient vécus et vus au niveau des formats, par exemple, de manière à pouvoir intéresser des nouveaux lecteurs.
D'accord. Oui, enfin moi je pense un peu la même chose que Tony, c'est-à-dire que on peut pas aller contre l'évolution des goûts des lecteurs, etc. Et effectivement, là pour rester dans la généralisation des comics en général. On voit les efforts que sont fournis par les éditeurs déjà à l'origine américain pour diversifier l'offre et le contenu, le genre, les genres, etc. des différentes séries. Derrière, aux éditeurs français de trouver les bons titres. J'ai envie de dire seule la qualité reste au final. Enfin, j'espère. Des fois, pas toujours, mais bon, ça c'est un verra.
May I say something? I think the image sensibility, the new image sensibility, must be followed. In the sense that what Image did is to bring some European sensibility to the United States. And now it's time to get that new sensibility mix of European and American to Europe once again. It's a kind of post-modernistic view, but I think that's the key, I think.
Aux États-Unis, effectivement, un éditeur qui s'appelle Image, qui est apparu au début des années 90, a su amener et incorporer une sensibilité européenne issue des auteurs européens dans les bandes dessinées que l'on peut observer aujourd'hui. Mais ça doit aujourd'hui fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faudrait que la bande dessinée française puisse incorporer et fusionner avec cette nouvelle vague un petit peu américaine de manière à pouvoir toucher un public beaucoup plus large.
Bah, merci messieurs, mais avant de conclure, j'aimerais juste demander à Michael où en est le projet Kirby and Me. Tu nous en parles
un petit peu
très rapidement. Ouais.
On a dépassé les 160 participants, on a quelques annonces qui vont arriver très bientôt, dont un gros auteur culte de comics qui nous a confirmé sa participation. Donc ce sera très bientôt, ça. On va l'annoncer, je pense, d'ici une semaine. Mm-hmm. Ça avance bien, on commence déjà à avoir les premiers retours. On a une galerie sur le site qu'on enrichit au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'auteurs de BD, par exemple franco-belges, qui nous ont répondu favorablement dès le départ et qui nous proposent des illustrations assez fantastiques, assez étonnantes d'ailleurs. Et beaucoup d'auteurs européens, en fait, en général, on a beaucoup d'artistes espagnols, italiens, qui sont au taquet, donc c'est plutôt cool. Ouais. Donc, non Tony, dont je suis la pression juste à côté, Laurent en face de moi, mais qui n'est pas espagnol, ni Baudron. Non, ce qui va être plutôt intéressant, c'est qu'on a on va avoir de la participation, notamment de, on va pas avoir que des illustrations, en fait, dans ce projet-là. Ça reste un projet caritatif, mais on va avoir des témoignages, par exemple, d'éditeurs, que ce soit de personnes qui ont rencontré Jack Kirby depuis des années, et notamment, par exemple, de noms comme Anne Nocenti, comme Thierry Mornay, notamment, qui doit aussi participer. Enfin, ça avance très bien. Normalement, on devrait lancer le Kickstarter d'ici au lendemain d'Angoulême. En fait, il est prévu au lendemain d'Angoulême qu'on lance l'opération de crowdfunding.
Voilà, ouais, parfait. Merci beaucoup.
Merci d'être passé autour du plateau pour nous parler de comics. Le festival à Tour de Bulle, c'est aussi deux très belles avant-premières où il est question de l'Espagne. On en parle dans la prochaine partie de cette émission spéciale consacrée à la bande dessinée et réalisée en direct de la cour Hockey Game. Auparavant, pause musicale avec Beau Dommage. Le titre s'appelle La Complainte du Phoque en Alaska. On revient juste après sur Radio Campus Tour.
Quelque part en Alaska, Y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Aux états en pleurant tout bas, c'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago,